nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Est-ce un vieux phonographe ou un orchestre que vous entendez ? Prêtez l'oreille. C'est un orchestre. Canal Académie vous invite au Théâtre du Châtelet pour découvrir en coulisses, pendant les répétitions, le travail des musiciens de l'Orchestre du Pas de Loup, des compositeurs et des chanteurs qui ont tout donné pour un concert ballade unique conçu par Christophe Mirambeau. Ce concert, tout en surprise, presque un spectacle, a été joué le 12 avril 2008 sur la scène du Châtelet. Ce sont ces musiques dites légères, parfois vouées aux gémonies que Christophe Mirambeau vous propose de découvrir ou de redécouvrir. Il est allé dénicher des partitions anciennes oubliées de l'avant-grande guerre jusqu'à nos jours. Du répertoire du passé au plus contemporain, c'était le défi qu'il s'était donné. Il a donc exhumé des pièces musicales qui ont été jouées parfois une fois, parfois jamais, et d'autres tant de fois qu'elles nous sont familières des générations plus tard. Mais pour que la surprise soit complète, il a demandé à des compositeurs d'aujourd'hui, Philippe Basque, Michel Bosque et Laurent Juillet, d'univers musicaux complètement différents les uns des autres, de se prêter au jeu de l'écriture pour ce spectacle, pour ce concert ballade. Ils ont écrit justement sur une chanson, sur un air de comédie musicale ou sur un air symphonique. Le plaisir ne serait pas total sans la fantaisie et le talent des artistes comme le quintet vocal des Cinq de Cœur, Charlène Duval et ses Boys, Lisa Michael et Denis D'Arcangelo, qui sont accompagnés par les 83 musiciens de l'Orchestre du Pas de Loup. Entre deux répétitions, vous allez entendre des interviews de Marianne Rivière, présidente de l'Orchestre du Pas de Loup, d'Olivier Grandjean, le chef d'orchestre, du compositeur Michel Basque et de la chanteuse Lisa Michael et du chanteur Denis D'Arcangelo. Le tout avec les répétitions en fond sonore et des extraits musicaux, justement des différentes prestations de tous les artistes qui composent ce vaste programme. Retrouvez l'intégralité de ces interviews et puis d'autres encore dans notre émission En médiathèque, Concert balade, Le plaisir pour le plaisir de Christophe Mirambeau, en répétition au Théâtre du Châtelet, émission numéro 2. Vous y retrouverez les Cinq de Cœur, quintette vocale extraordinaire, le compositeur Michel Bosque, le compositeur Laurent Juillet, et puis l'intégralité de l'interview de Philippe Basque, le troisième compositeur. Vous venez d'entendre un extrait de Burbank, ouverture pour un musical, composé en 2008 par Michel Bosque et joué par l'Orchestre du Pas de Loup. Et vous allez écouter ensuite l'interview de Marianne Rivière, la présidente de l'orchestre. Marianne Rivière, merci d'accorder quelques instants à Canal Académie.
Bonjour.
Vous êtes entre deux répétitions, bonjour. Vous êtes la présidente de l'Orchestre Pas de Loup, qui donne un concert unique, le 12 avril 2008 au Théâtre Musical du Châtelet. L'Orchestre Pas de Loup, il est très connu. J'ai découvert que c'était une grande formation existante depuis
le
19e siècle. Alors racontez-nous brièvement cette histoire, parce qu'elle donne aussi toute la couleur
oui,
de votre association.
C'est une très belle histoire.
Association,
en fait, 1861, donc c'est Jules Pas de Loup qui était chef d'orchestre, qui a créé cet orchestre, et avec une très belle idée que maintenant on appellerait ça un concept, mais il a appelé son orchestre des concerts populaires. Et il a eu donc la grande ambition de à la fois faire jouer le grand répertoire, faire des créations et toucher un public très large et populaire. Donc il a eu l'idée, maintenant on sourit parce qu'on on est fiers de venir jouer au Stade de France ou à Bercy, mais lui, en 1861, a investi le Cirque d'Hiver.
C'était un peu l'équivalent.
Hein. Oui, il était avec les spectacles de chevaux alternés des concerts de musique classique. Et quand on lit des récits de l'époque, il y avait plus de 4000 personnes debout au Cirque d'Hiver qui venaient écouter des symphonies de Beethoven et puis des créations de Lalo, Bizet, Saint-Saëns, enfin des compositeurs de l'époque.
Donc à la fois des compositeurs connus, reconnus, déjà à l'époque le principe était là, et aussi des œuvres contemporaines.
Oui.
C'est-à-dire ce mélange entre tradition et modernité.
Oui.
C'était une des valeurs de l'orchestre Padoue dès l'origine.
Oui, et puis je pense aussi une façon d'aller vers le public.
Oui.
Et cette tradition-là, bah, on essaye de façon extrêmement vivante et moderne de la renouveler tout le temps.
Voilà. Alors comment ça se traduit aujourd'hui ?
Alors ça se traduit d'abord, il y a eu plusieurs très belles époques de l'orchestre Padoue. Hein. Il y a eu aussi l'époque autour des années 1920, où il y a un mécène, Serge Sandberg, qui avait beaucoup d'idées et qui a aidé l'orchestre à vivre aussi une très belle période. Alors on a fait toutes les créations de Ravel ou des choses comme ça très très importantes. On a été aussi les précurseurs de la musique de film,
oui.
Puisqu'il a commencé à faire les enregistrements avec l'orchestre Padoue, donc
pour les films muets.
Oui,
et puis après pour les bandes-sons,
c'est lui qui a investi.
Il y a toute une mémoire. Il y a un livre sur votre orchestre.
Pas grand chose. En fait, on a trouvé. On n'a pas beaucoup d'archives, parce qu'apparemment, dans les locaux, il y a eu des dégâts dans les années 50 qui ont abîmé beaucoup de choses. Mais par contre, on a retrouvé une thèse, notamment il y a quelques années, ce qui fait qu'on a fait un petit travail avec des étudiants pour. Avec un petit clin d'œil historique sur cette formation prestigieuse. Maintenant, nous sommes avec Patrice Fontanarosa, en fait un violoniste qui est notre conseiller artistique, qui lui-même a une très belle idée de ces concerts populaires, d'aller vers le public tout en faisant des choses extrêmement recherchées.
Voilà. Et j'ai vu effectivement que vous aviez eu quelques admirateurs célèbres comme Romain Rolland ou Jean Cocteau dans l'histoire cet orchestre, qui a aussi une petite particularité au niveau de sa structure, de sa fonction, de sa gestion.
Alors maintenant, on est associatif,
oui.
Donc ce qui fait qu'il y a un bureau élu de musiciens. Donc moi-même, je suis présidente, mais
c'est pour ça que vous êtes présentée comme ça.
Voilà. Et puis notre secrétaire général, Roland Chausson, est corniste. Enfin, voilà. Donc c'est les musiciens qui gèrent leur orchestre.
C'est courant, ça ? Sur un grand orchestre comme ça ?
Non, c'est pas très courant, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, ouais. Mais ça donne une très grande originalité.
Ouais.
Parce que pour un orchestre symphonique, c'est vrai que souvent, il y a des lourdeurs parce qu'on est nombreux. Mmh. Donc, c'est compliqué à gérer. Mais là, ce sont les musiciens qui sont des passionnés.
Ouais. Hein,
je dis souvent que c'est un patchwork de profils très différents. Personne n'est salarié de l'orchestre, donc personne n'est à plein temps non plus. Nous sommes tous des musiciens professionnels, mais qui viennent d'horizons très diverses.
Ouais.
Donc, il y a des musiciens qui font la musique de chant, qui ne font pas l'orchestre symphonique à plein temps, mais qui adorent jouer aussi ce répertoire.
Ça leur permet de pouvoir...
Voilà, il y a des gens qui sont dans des autres formations symphoniques, mais qui sont à l'orchestre Padoue à d'autres postes. Il y a des gens qui font de l'enseignement, il y a des gens qui sont dans des ensembles de musique contemporaine.
Et puis j'ai vu que tous les âges, qu'on pouvait trouver toute la gamme
mélange,
des générations.
Voilà.
Oui. C'est assez séduisant de voir des jeunes aux percussions. Oui. Non pas parce que... mais c'était très, très, très joli.
Non, c'est vrai. Et puis aussi, les musiciens prennent vraiment leur programmation en main, font des choix. C'est assez rare. Voilà.
Il y a un esprit orchestre Padoue.
Oui, je pense vraiment. Ouais. C'est une grande passion, en fait. Une grande passion, beaucoup d'envie, très peu de moyens.
Ouais.
On essaie de faire des choses.
Beaucoup d'énergie, en tout
oui,
cas.
Oui, je pense. Mais partagé par tout le monde. C'est ça qui est assez rare.
Dans une grande formation comme ça.
Voilà.
Alors, on met ensemble beaucoup de chaleur entre vous.
Mm-hmm.
C'est assez agréable comme ça. Moi, j'étais la petite souris dans les coulisses des répétitions, là, des premières lectures. Alors là, l'orchestre Padoue donc va interpréter, accompagner à la fois des ensembles, enfin un ensemble vocal comme le quintet vocal des cinq de chœur, ou bien Lisa Michael ou Denis d'Arcangelo.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est courant pour vous de faire ce genre de concert balade, concert spectacle ? C'est-à-dire, est-ce que d'habitude vous ne jouez que
On n'a pas d'habitude.
Ah,
en fait, ce qui est courant, c'est de ne pas avoir des habitudes.
Est-ce que c'est une première pour vous ?
Il y a beaucoup de premières. Voilà, je vais vous
parler. C'est quoi la nouveauté pour ce concert balade conçu par Christophe
Nirambeau ? La nouveauté,
c'est
essentiellement le répertoire, commander à des compositeurs des nouvelles pièces et avoir des idées très diverses. Alors voilà, on réfléchit beaucoup à cette idée de populaire. Actuellement, on a l'impression un petit peu que où il y a des choses très compliquées, qui sont compréhensibles par assez peu de gens, qui sont très très performants, qui savent énormément de choses sur toutes les interprétations, les symphonies de Beethoven ou des choses assez pointues. Et puis sinon, il y a le populaire qui serait presque un peu parfois vulgaire et sans trop de recherche. Et nous, on défend qu'il y a un travail énorme à faire pour essayer d'aller vers le public avec des choses assez compliquées, mais qui sont très abordables,
accessibles
pour le public. Voilà. Mais nous, on a beaucoup travaillé pour que ça soit justement abordable et en même temps original. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Depuis quelques années, on travaille beaucoup dans cette idée de modernité qui passe par la création. On commande à des jeunes compositeurs toutes les saisons musicales. À trois jeunes compositeurs, on commande trois pièces. Déjà, pour un orchestre symphonique, ce n'est pas quelque chose de très courant. Et puis, la création, elle a de multiples facettes. Défendre le répertoire, c'est aussi défendre un répertoire, par exemple, du music hall. Là aussi, c'est une originalité.
Oui, ce n'est pas très courant pour un orchestre symphonique.
Et il y a des compositeurs actuellement qui ont envie de défendre cette chose-là. Donc là, on a commandé à cinq compositeurs, à la fois des œuvres nouvelles, des orchestrations, avec l'aide de Christophe Mirambeau, qui lui est un grand spécialiste, à la fois musicologue, historien, ce qui fait qu'il connaît un petit peu tout ce répertoire. Il a fouiné, cherché des thèmes, des airs, des partitions, pour qu'on puisse faire un programme attrayant, très original et absolument inédit.
Marianne Rivière, quel est votre instrument dans l'orchestre ?
Moi, je suis violoniste.
Oui. Et où est-ce que vous vous êtes fait le plus plaisir, là, tout à l'heure, dans les répétitions ?
Oh, il n'y a pas de plus. Oui. Déjà dans la préparation. Oui. Voilà, la préparation, c'est très, très grisant de découvrir des choses. Et puis après, quand on commence à les découvrir, à les entendre et que ça prend forme, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, comme on le disait tout à l'heure, mais beaucoup de plaisir aussi, voilà, à voir que ça prend forme.
Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps entre deux répétitions.
Merci.
Vous venez d'entendre un extrait de Final Canyon de Laurent Juillet joué par l'Orchestre du Pas de Loup. Écoutons Olivier Grandjean, le chef d'orchestre.
Olivier Grandjean, est-ce que c'est le répertoire habituel sur lequel vous travaillez ?
Non, pas vrai dire. C'est le répertoire qui se rapproche le plus du répertoire avec lequel j'ai débuté il y a une quinzaine d'années. Répertoire d'opérette, opéra bouffe. Mais bon, ça n'a pas grand-chose à voir finalement dans le style. C'est un concert que je ne devais pas diriger. L'Orchestre Pas de Loup m'a appelé pour me demander si je pouvais donc assurer ce spectacle il y a environ un mois. J'ai accepté tout de suite parce que j'apprécie beaucoup les musiciens de l'Orchestre Pas de Loup d'une part, et puis l'idée me paraissait extraordinaire d'aller donc fureter dans un répertoire qui n'est plus joué depuis longtemps, au travers de compositions reconstituées par des compositeurs modernes. Donc, ça m'a semblé une idée intéressante et puis même une aventure. Mmh. Et donc, voilà, c'est effectivement, quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que c'est une réelle aventure qui est enthousiasmante, mais qui est lourde.
Alors, est-ce que quelles sont comme ça à chaud les difficultés ou les facilités justement, puisque de diriger l'orchestre comme ça à quelques jours de...
Bon, ben ça, c'est toujours, il y a toujours une difficulté à prendre un orchestre 2 jours avant un concert et monter un programme. La difficulté, là, elle est spécifique au programme, dans la mesure où on a 14 œuvres différentes. Bon, l'Orchestre Padoue est habitué à jouer des programmes avec beaucoup d'œuvres différentes. Donc, de ce côté-là, ils sont habitués à se concentrer sur les changements, parce que la problématique, c'est les changements. Mais là, une des choses qui est toute nouvelle pour tout le monde, c'est qu'on est tous en train de jouer des œuvres qu'on n'a jamais jouées. Ce ne sont que des créations, finalement, ou des recréations.
Alors, par exemple, qu'est-ce que, justement, ça fait de diriger l'orchestre pour une création mondiale absolue comme l'orchestration de Final Canyon, qu'il a avec tout un orchestre, mmh. avec le compositeur présent à vos côtés? C'est pas très courant, j'imagine, que vous jouiez des œuvres contemporaines avec le...
Bon, généralement quand il y a une création, il y a le compositeur.
Ah, donc,
et heureusement, parce qu'on a toujours besoin de lui poser quelques questions par rapport au problème spécifique de l'orchestration, mmh. Les dynamiques, plein de choses. Là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 7 compositeurs présents, je crois. Donc, ils sont tous là pour toutes leurs orchestrations et leurs créations.
Donc, il y a un va-et-vient.
Voilà, c'est une espèce une richesse incroyable entre tous les chanteurs présents. Ça fait une quinzaine d'artistes, en fait, les chanteurs plus les compositeurs. Et chaque œuvre, c'est ça la création, la reconstitution vivante en fait. Les artistes sont présents et on peut, c'est un réel travail de collaboration, on va dire, et non pas des questions sans réponse. Et oui, d'avoir le rangement.
Justement, j'ai vu très rapide, il y a vraiment, ça va très très vite. Hein.
Oui, mais ça, on n'a pas le choix. C'est vrai que monter un tel programme en 3 répétitions, c'est une gageure.
Et justement, on passe d'œuvres très contemporaines à des œuvres du 19e qu'a sélectionné Christophe Mirambeau, comme la Grande Via qu'on vient d'entendre là. Quel plaisir justement trouvez-vous dans ce spectacle, dans ce concert balade qui a pour titre Le plaisir pour le plaisir, justement, c'est de faire ces sons dans le temps, cette musique avec laquelle vous revenez.
Je crois que c'est tout simplement que c'est une musique faite pour le plaisir. Donc on en ressent presque immédiatement cette joie interne après les premières lectures, puisque c'est vrai qu'il y a un petit peu de tension finalement dans l'air avec l'orchestre. La première lecture n'est pas toujours probante, il y a des erreurs, bon, donc on n'est pas complètement à l'intérieur, mais la joie par rapport à hier, il y a déjà plus de dynamique et on imagine ce qui va se passer. Donc c'est forcément, c'est vrai, c'est évidemment un programme où il faut prendre du plaisir, il faut se libérer, il faut pouvoir vraiment communiquer les musiciens, entre les musiciens et avec les chanteurs, avec moi-même, et je crois que ça, on va y arriver. C'est le but de ce concert, prendre du plaisir, et les musiciens le feront.
Je voulais vous demander votre impression, ou justement, là, hier j'ai assisté à une lecture, sur les partitions, elles ont quelque chose de particulier, ces partitions-là, puisque c'est des œuvres anciennes qui ont été rééditées là, pour le spectacle, je pense, et il y a des choses manuscrites. J'ai vu que les musiciens étaient un peu perdus. Est-ce que ça aussi, c'est habituel, c'est courant, c'est...
Non, c'était pas si courant pour le musicien classique d'avoir autant de...
Donc, vous lisez les partitions comme moi je lis des livres, c'est pour ça que je vous pose cette
question. Oui, non, ce n'est pas si courant. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à lire, hein, tout simplement. Ouais. Il y a des choses qui sont même carrément illisibles. Je crois que les musiciens ont recopié un des manuscrits. Après, la problématique, c'est de s'adapter à une orchestration moderne sur quelque chose qu'on a pu entendre ou alors quelque chose qui est très semblable à un style qu'on connaît. Mais avec l'orchestration moderne, on peut être un petit peu perturbé au départ, quoi. Ce sont des orchestrations modernes. Parce que Christophe Mirambeau n'a pas voulu de nostalgie sur ce programme. Et à l'écoute de notre travail, je me rends compte qu'il a réussi. On a l'impression d'écouter des œuvres d'aujourd'hui, alors qu'elles ont été écrites il y a 80 ans, pour la plupart. Donc voilà, c'est vraiment un programme du présent, avec des orchestrations modernes, qui n'a rien à voir quelque part sur le plan de l'écriture avec ce qu'on pouvait entendre il y a 80 ans.
Et puis il a aussi introduit dans cette sélection des œuvres très très contemporaines. Je voudrais juste citer l'œuvre de Michel Bosque. Mm-hmm. Où là il l'a écrite il y a à peine quelques mois.
Oui, effectivement, c'est une œuvre, c'est pas une œuvre contemporaine dans le sens où le langage est contemporain. C'est tout à fait dans la tradition, d'abord je crois qu'il appelle ça fantaisie hollywoodienne.
Ouais.
Mais c'est une œuvre récente, effectivement, écrite pour l'occasion.
Le public n'est pas dérouté, en fait.
Ah non, le public ne peut pas être dérouté.
Le
public ne peut pas imaginer que cette musique a été écrite récemment. Sauf voilà. Un connaisseur va dire, mais les orchestrations sont un peu spéciales. Ne correspondent pas avec ce qu'on avait. L'orchestre était moins important de toute façon, voilà. Mais ça, c'est un parti pris et finalement, je pense que Christophe même va l'expliquer puisqu'il va être très clair par rapport à l'audience et au déroulement du spectacle. Oui, les orchestrations sont tout à fait modernes.
Je vais vous libérer parce que je sais que votre temps est compté et que vous allez tout de suite repartir en répétition. Merci Olivier Grandjean.
Merci à vous.
Vous allez entendre un extrait de Paris Music Hall 1920, composé par Philippe Basque en 2008. Et c'est une suite pour orchestre et vocal, un hommage à Maurice Yvain. C'est une première absolue et en voici un petit extrait suivi de l'interview de Philippe Basque.
Bonjour, merci de nous accorder quelques instants en ce jour de répétition du spectacle Pour le plaisir. Le plaisir pour le plaisir, monté pour le Théâtre du Châtelet pour le 12 avril. Et vous êtes pianiste-compositeur.
Oui.
Et vous avez signé pour ce spectacle. Je ne sais pas si c'est pour le spectacle, c'est une commande.
Tout à fait, c'est une commande, oui.
Vous avez signé une pièce qui s'appelle Music Hall Suite 1920 Paris to Broadway. Alors, c'est un patchwork de plusieurs danses des années 20, bien connues dans ces années-là, et dont les rythmes sont aussi familiers aux auditeurs d'aujourd'hui, quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire par cette création ?
Alors, tout d'abord, bon, je tiens à préciser que c'est une œuvre de commande, effectivement. Christophe m'a contacté, en fait.
Christophe Mirambeau
m'a contacté pour réaliser une pièce autour de Maurice Yvain. En fait, c'est une pièce, un hommage à Maurice Yvain, et essentiellement sur le répertoire du Music Hall, puisque Maurice Yvain avait été lancé à l'époque non pas par l'intermédiaire de l'opérette, mais par le Music Hall. Il a démarré par le Music Hall.
Maurice Yvain, à qui on doit Mon Homme, pour des grands classiques.
Voilà, pour les pièces de Music Hall, c'est effectivement
chanté
Mon Homme,
chanté par
Mistinguett, où il avait aussi comme créateur Maurice Chevalier, un peu plus tard. Sinon, on pouvait aussi citer un opérette, Yes, sur la bouche. Il y a plein d'opérettes assez célèbres qui ont apporté beaucoup de renouveau à la musique française au début du siècle. Et je dois dire, donc, par l'intermédiaire du Music Hall. C'est vrai que le Music Hall a apporté beaucoup aussi dans le monde de l'opérette. C'est pour ça que c'était important de resituer un petit peu le Music Hall dans ce contexte, et l'opérette aussi. Parce qu'en fait,
les deux mondes se sont noués.
Et ont fusionné, en fait, et je pourrais dire que même le précurseur était Maurice Yvain. Et pourquoi Paris to Broadway? Tout simplement parce qu'effectivement, on pourrait se dire que finalement, est-ce que la comédie musicale n'est pas née en France par l'intermédiaire de Maurice Yvain? parce qu'effectivement, il a emprunté beaucoup de rythmes qui étaient issus effectivement des États-Unis, c'est-à-dire puisqu'on parle de la Première Guerre mondiale, donc à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a quelques héritages sur le jazz, effectivement, très très fort, puisque les troupes américaines avaient véhiculé tout ce jazz qui venait des États-Unis. C'était une musique exotique pour l'époque, et Maurice Yvain a été très imprégné par ces atmosphères-là, dans les cabarets parisiens. C'était au départ, c'était assez intimiste, on va dire. C'était réservé à une part de société intellectuelle, on va dire, sur Paris. C'était pas très public, et ça a été après, c'est devenu public justement par l'intermédiaire d'artistes comme Maurice Yvain ou autres.
Ça s'est popularisé.
Ça s'est popularisé, oui. Et à travers essentiellement donc toutes ces danses qu'on connaît aujourd'hui encore, qui n'ont pas complètement disparu, mais qu'on retrouve dans les bals par exemple. Donc il y a la Java, le Foxtrot, peut-être un peu moins connu le Chimie, qui est vraiment une danse très très spécifique aux années 1920. Qui était souvent associé au Charleston aussi. Il y avait le Charleston, il y avait les two-step, one-step. Donc on avait des appellations anglo-saxonnes aussi, avec des petites références comme ça. Et on avait un renouveau complet de tout ce qui était musique, on va dire, musique de concert. On est arrivé sur la musique de divertissement, en fait. Ouais. Voilà, donc... En fait, c'est ce que j'ai essayé de restituer dans la pièce, c'est-à-dire essayer de compiler autant que possible, avec beaucoup de modestie. J'ai essayé de sélectionner donc une série de rythmes à la mode qui sont très représentatifs de l'époque. Voilà, pour essayer de restituer au mieux ces années 1920.
Philippe Basque, vous avez choisi donc pour ce morceau de musique que vous avez composé pour le spectacle de nombreuses danses de l'époque, représentatives de l'époque. Alors, vous ne les avez pas toutes mises. Comment s'est opéré votre choix ?
Donc, en fait, j'ai retenu essentiellement sur les suggestions de Christophe Mirambeau, qui est vraiment spécialiste, on va dire, à la matière. Et j'ai retenu essentiellement ceux qui pouvaient encore de nos jours rester par l'intermédiaire du bal ou du cabaret ou... Et en fait, toutes les références qu'on peut avoir par rapport à nos parents, nos grands-parents. Parce qu'effectivement, on a très très peu de traces finalement sur des supports modernes. On a essentiellement des traces sur des supports à qui s'adressait Paul Phonographe, c'est-à-dire sur des disques 78 tours, ou éventuellement des bribes de partitions qui avaient pu être sauvées dans les années après-guerre.
Il y a tout un travail, voilà, de recherche, donc.
Tout à fait, oui. On a pu retrouver des manuscrits de Maurice Yvain,
donc,
oui. Mais vraiment, qui ont été réédités après. Donc, c'est vraiment très infime. Malheureusement, c'est un répertoire qui s'est un petit peu perdu. Il reste essentiellement le répertoire de l'opérette, mais le musical a vraiment disparu, malheureusement, avec le temps. Donc on a essayé surtout de reconstituer un petit peu cet univers avec les chansons qui restaient, qui étaient à la mode et qu'on peut entendre encore aujourd'hui, comme les chansons de Mistinguette, par exemple, Monôme. Il y a aussi deux pièces que j'ai retenues dans le répertoire de Maurice Yvain qui me paraissaient fort intéressantes pour la pièce, dans la mesure où elles utilisaient un rythme de danse. Donc en fait, il y avait le Charleston, qui est issu d'Un bon garçon, en fait, une opérette de Maurice Yvain. Un bon garçon, donc, et c'est danser le Charleston, qui ouvre la pièce.
Ça commence comme
forme,
ça.
Voilà, une forme particulière. Alors ouais. Là, c'est très,
très intéressant. C'est très sophistiqué, votre musique. C'est très, 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 très enlevé, très rythmé.
Oui, j'ai essayé de donner cette petite couleur, toujours un peu française, comme ça,
ouais.
Et qui ne se prend pas trop au sérieux non plus.
Ouais.
Donc ça, c'est pour moi, c'était très, très... ma première exigence par rapport à mon travail. Après aussi, c'est ce côté un petit peu sarcastique qu'on va retrouver aussi dans le siècle où il y a un renouveau du langage, et j'ai essayé de m'imprégner un petit peu de ça. On va le retrouver à travers Satie, Milhaud, enfin, qui ont repris un petit peu ce répertoire aussi.
Oui.
On a un foxtrot par exemple chez Georges Auric. Mm. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un hommage en fait à tout cet univers. Ce n'est pas forcément mon outil principal,
ouais.
Mais c'est vrai que pour l'occasion, j'ai quand même, je me suis
fait plaisir,
voilà,
comme le titre
c'était
du spectacle le
plaisir,
rappelle,
voilà,
et
dit,
pour rendre hommage à toutes ces musiques qui nous parlent encore,
voilà,
en fait,
voilà,
hein, qui ont quand même un public, oui. Quelles que soient les générations, c'est vrai que ça continue, ça passe.
Alors peut-être pour compléter juste, il y a quelque chose qui me semblait assez intéressant, j'ai reconstitué, à l'époque le jazz a été véhiculé par deux ou trois jazzmen qui venaient des États-Unis, qui sont restés à la suite de la guerre mondiale. Et dont
France,
Louis, voilà, qui sont restés en France, et dont Louis Mitchell, qui était un des plus connus, qui était un batteur de jazz fort célèbre, et qui a constitué des jazz bands, on appelait ça comme ça à l'époque. Aujourd'hui, on dirait plutôt big band, ou donc des petites formations pour le jazz, et qui en fait souvent jouaient dans le Casino de Paris, puisqu'il y a quand même des petits clins d'œil dans cette pièce sur le Casino de Paris. Et je crois que c'est la première fois qu'on a pu entendre officiellement le jazz en France dans une grande salle. C'était au Casino de Paris, si je ne me trompe pas, c'est en 1918, accompagné par Miss Tinguette. Et ce fameux Louis Mitchell qui avait fait des arrangements justement des petits airs à la mode de l'époque. Et donc, danser le Charleston a été, j'ai essayé de reconstituer un petit peu cette pièce-là, vue par Louis Mitchell avec son jazz band.
De l'époque, quoi.
Voilà.
Et vous en avez fait une création contemporaine.
Voilà, j'en ai fait, une reconstitution complète au niveau du son.
Ouais.
C'est-à-dire, j'ai essayé de restituer avec des logiciels de l'IRCAM, j'ai essayé de reconstituer le son de l'époque sortant d'un phonographe avec la formation qui pouvait exister à l'époque. C'était un quintet, la plupart du temps, avec banjo, piano, trombone et saxophone. Et bugle. Et donc, en fait, les gens pourront croire qu'au départ, c'est une pièce de l'époque, mais en fait, ça a été fait il y a une semaine.
Ouais.
Ça a été terminé il y a une semaine, et j'ai retraité tout ça, tout le son, pour donner l'illusion que ça sort d'un phonographe.
Donc, en fait, à un moment, on va entendre un 78 tours,
tout
c'est
à fait,
ça
tout à fait. Sortant d'un phonographe.
Sortant d'un phonographe, donc on va être surpris d'entendre ça, mais
oui,
effectivement, là, notre oreille n'est pas habituée.
Oui.
Je parle là. Et ensuite, donc, l'ouverture, enfin, la musique,
voilà.
ça commence, votre
tout
musique.
À fait. J'ai essayé de monter un petit scénario visuel et c'est un petit peu ma déformation parce que je travaille souvent pour le film, donc il y a un côté mise en scène qui m'intéressait dans ce travail. Et donc, en fait, il y a une sorte de spectre, on est dans le domaine du fantastique, et un spectre qui va s'emparer du phonographe et qui va transposer ce qui est en train d'être diffusé dans le phonographe. L'orchestre symphonique va devenir un énorme phonographe, gigantesque.
Oh,
et qui donc il va diffuser une suite de danses
de danse.
À l'époque. Voilà.
D'accord, parce qu'alors, répétition, on n'a pas l'ensemble,
oui.
On n'est pas à la générale hein,
oui,
encore
oui,
là.
Tout à fait, oui.
Donc c'est très très intéressant. Dans cette musique, cet univers là où se mélange le musical, le jazz, toutes ces danses aussi, il y a quelque chose. Vous l'avez appelé de Paris. De Broadway à Paris ou de Paris à Broadway, je ne sais plus dans quel sens.
Paris to Broadway.
Voilà, Paris to Broadway. Oui. Qu'est-ce qui. Ces passerelles que vous avez un peu évoquées, musicalement, comment ça s'est traduit pour vous?
En fait, déjà la démarche, comme je disais tout à l'heure, Paris to Broadway, parce qu'en fait, je peux considérer, à travers les recherches, j'ai perçu ça et j'en ai discuté avec Christophe Mirambeau. On pourrait quand même envisager, c'est un petit peu un juste retour aux sources.
Oui.
C'est vrai que Gershwin est un peu plus tardif, oui. il est pratiquement de cette époque-là, mais c'est un peu plus tardif, et il n'était pas...
Là, on est juste au sortir de la Première Guerre mondiale,
voilà,
c'est ça que
voilà, au sortir de la Première Guerre mondiale, et du coup, je pense que les États-Unis ont pu entendre quand même ce type de pièces, il y avait quand même encore
des soldats
qui devaient rester, qui ont entendu, qui ont essayé de capter comme ça des... la nuit parisienne,
oui.
Et effectivement on va retrouver tout ce travail à travers les comédies musicales, les premières, dont la première fort célèbre, Nono Nanette, et plus tard pour Guy and Bess, on va retrouver un petit peu ces accents comme ça qui
c'est
sont
dans
pas...
les années 30,
c'est plutôt plus tard hein, c'est plus
encore
tardif,
plus tard
hein, oui, c'est beaucoup plus tardif, mais je crois que c'est quand même quelque part un héritage de ce savoir-faire français. Pouvoir allier cet esprit léger à la danse, au théâtre.
Alors vous avez écrit pour un orchestre d'un peu plus de 80 musiciens.
Oui, 86
donc, je crois. 86, voilà. Qu'est-ce qui est l'orchestre Padeloup qui interprète tout le spectacle en fait. Est-ce que c'est courant d'abord d'écrire, de composer pour un orchestre comme ça aujourd'hui?
C'est un luxe.
C'est un
luxe. Surtout pour ce répertoire-là, parce que c'est un répertoire de essentiellement réservé au music hall, qui d'abord n'est pas constitué d'un orchestre symphonique. La plupart du temps, c'est soit un big band, soit un orchestre amélioré.
Donc là, vous aviez des instruments qu'on n'entend pas forcément habituellement.
Voilà, c'est vrai. Et puis, on a même essayé de travailler sur l'ensemble du répertoire. Je dois dire qu'en fait, ce n'était même pas la formation qui était habituelle.
Ouais.
C'est-à-dire, c'était plutôt de la musique qui était traitée en fosse, ce qu'on appelle en fosse. Donc, en fait, les orchestrations étaient essentiellement juste violon abaissé. On avait après un petit soutien d'accompagnement. Donc là, on est vraiment dans le luxe avec ce concert parce qu'on a développé les orchestrations pour que effectivement ça soit intéressant au niveau symphonique. Et donc on a une redécouverte de tout ce répertoire avec peut-être avec plus de comment dire de je perds mes mots de couleurs modernes, enfin on va dire un souci de modernité en fait dans tout ça.
Merci voilà. Beaucoup.
Avec plaisir.
Vous venez d'entendre un extrait de Paris Music Hall 1920, qui est une composition de Philippe Basque, qui date de 2008, qui est une suite pour orchestre et vocal, un hommage à Maurice Yvain. Et c'est une première absolue.
Bonjour Lisa Michael.
Bonjour.
Enchantée de nous accorder quelques instants, un jour de répétition, l'avant-veille du spectacle, pour le plaisir, monté, créé, conçu par Christophe Mirambeau, dans lequel vous allez vous interpréter une chanson, dit
c'est
une chanson
absolument.
Reste encore, tirée d'une comédie musicale écrite par Patrick Laviosa, qui s'appelait Simenon et Joséphine.
Absolument.
Alors, vous nous avez interprété tout à l'heure un magnifique morceau. Qu'est-ce que ça représente pour vous c'est de jouer comme ça avec, on va dire, 80 musiciens derrière vous? Je crois que ce n'est pas très courant, même dans les comédies musicales.
Oh, c'est que du bonheur, vraiment. On se sent porté par un tapis de générosité qui fait que tout devient facile. C'est un rêve d'enfant qui se réalise à chaque fois, vraiment. Et je remercie Patrick d'avoir écrit cette chanson. Je n'avais qu'une chanson dans cette comédie musicale, mais c'était du bonheur. Et là, de pouvoir enfin la rejouer, c'est merveilleux, parce qu'on ne l'avait jouée que 5 fois. Donc ça sera ma 6e fois, et j'en suis très très heureuse.
Et les autres fois, vous ne disposiez pas de cet orchestre qui vous accompagne, en quelque sorte?
On avait un philharmonique.
Aussi important?
Il n'y avait pas 80 personnes. Il n'y avait pas 80 personnes, mais il y avait moins de cordes.
Ouais.
Là, c'est merveilleux, vraiment.
Alors, vous commencez la chanson en français, puis vous l'interprétez en anglais. Bah, la musique change complètement, évidemment. Elle a été orchestrée par Michel Bosque. Et c'est un magnifique joyau. Quand vous l'avez rechanté tout à l'heure, quelle a été votre émotion?
J'essaie de ne pas trop regarder Patrick, parce que je suis très, très émotive et je pleure facilement. Et ça m'émeut tellement, moi qui ai vu le début de ce morceau, le travail que Patrick a fourni sur cette comédie musicale, je me sens mais tellement privilégiée qu'on m'ait fait ce cadeau, et j'ai tellement envie de lui rendre le meilleur de moi-même. Ça m'émeut beaucoup, donc j'essaie de ne pas trop le regarder pour ne pas me mettre à pleurer.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson?
La partie en anglais.
Là, vous faites plaisir.
Ah, oui. Mais, bon, cela dit, je me fais plaisir
tout
vraiment sur tout le morceau. Vraiment, c'est difficile pour moi de le découper en petits bouts, parce que C'est vraiment une émotion différente. Il est bien écrit, voilà. Le morceau est bien écrit, donc ça permet de passer par différentes émotions. De la douceur, de la tendresse, du languissement, de la certitude, des doutes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ce morceau.
L'écriture musicale la flatte en quelque sorte aussi bien les chanteurs que l'orchestre. Oui. Il y a cette complémentarité, ça qui fait la couleur. Bon, peut-être du spectacle probablement, mais là, ça a l'air d'être un petit peu unique par rapport à d'habitude.
Oui,
vous
oui, complètement.
Vous faites plusieurs comédies musicales, ça va un peu être une de vos spécialités, puisque j'ai appris que vous aviez été danseuse presque dans une autre vie.
Oui.
Donc, quelle est la différence pour vous, là, tout d'un coup, d'être dans un concert au Théâtre du Châtelet? C'est pas une comédie musicale de A à Z, c'est une composition un petit peu particulière.
C'est un moment.
Qu'est-ce qui change pour vous, là?
Il n'y a pas la préparation du personnage, parce que théoriquement, ce personnage est américain, donc j'ai un accent quand je parle français. Là, on le chante vraiment, on l'assume français. Et puis, c'est un hommage, j'ai l'impression de... Ça me fait tellement plaisir pour Patrick Laviosa.
Et c'est un hommage aussi pour qui?
Alors, moi...
Pour vous, ça serait...
Moi, je rêverais que Liza Minnelli interprète ce morceau.
Oui.
Je l'ai dit à Patrick. Patrick a d'ailleurs joué pour Liza Minnelli. Et moi, j'ai rencontré aussi Liza Minnelli. Et à chaque fois, on lui en a reparlé. Alors, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, elle se décidera. Mais je trouve que c'est un morceau qui est vraiment en hommage à ce type de chanteuse.
En tout cas, on entend très très bien les percussions sur ce morceau. Et quand vous avez rejoué plusieurs fois le morceau, on va pouvoir en entendre quelques extraits de cette répétition, justement. Je crois qu'on s'est tous arrêtés pour ne pas applaudir, parce qu'on en allait s'engager sur les musiciens. Moi, j'étais derrière eux. Tout le monde était très 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 heureux, quoi. Ça se sentait dans la salle, alors que ça n'est qu'une répétition. Voilà. C'est donc un très beau morceau. Et il ne pouvait pas s'empêcher de regarder la chanteuse, le chef, de temps en temps. Je voyais où j'étais, planquée dans un petit bout en coulisses. Là, c'était assez émouvant.
C'est magique de voir que tout d'un coup, des gens d'orientation totalement différente se réunissent pour un même projet et pour faire éclore quelque chose d'unique. Parce que cette fois-ci, ça sera chanté comme ça, ça sera joué comme ça. Ce sont des moments uniques. Et ça, c'est... Waouh. Ça fait des frissons.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, les amis Gaël, et puis bonne continuation pour toute votre carrière.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Oui.
Après l'interview de Liza Michael, retrouvons Denis D'Arcangelo, qui interprète la chanson « Le suicidaire indécis », qui est un poème de Pierre Philippe, sur une composition de Cyril Laine.
Denis D'Arcangelo, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes au micro de Canal Académie.
Avec plaisir.
Vous venez d'interpréter, là, lors des répétitions du spectacle Pour le plaisir, monté et conçu par Christophe Mirambeau pour le Théâtre du Châtelet le 12 avril 2008, une pièce, un morceau musical qui s'appelle Le suicidaire indécis, qui a été composé par Cyril Lem, qui est un très jeune compositeur.
Oui.
Quel est le thème de ce suicidaire indécis?
Oui, donc vous alliez dire que le texte en était de Pierre Philippe,
voilà.
Quelqu'un d'extrêmement important dans mon parcours personnel. Enfin, c'est quelqu'un que j'admire énormément, dont j'aime beaucoup les chansons qu'il a écrites pour Juliette, pour Jean Guidoni.
C'est
un de mes paroliers d'élection.
Il est aussi écrivain.
Réalisateur, enfin... Et là, en l'occurrence, il a écrit cette chose qui n'avait jamais été chantée par personne. Et j'ai cet honneur, qui s'appelle « Le suicidaire indécis », qui est l'état d'âme d'un homme qui pense à mettre fin à ses jours et puis qui hésite. Et puis, toutes ses tentatives, de toute façon, sont vouées à l'échec. Et pour terminer, il a cette phrase merveilleuse de Pierre-Philippe Danc, qui est « Puisqu'elle me laisse... Puisqu'enfin tout lui est choix, qu'elle me laisse entre deux choix, que la vie elle-même me suicide. »
Alors, quand vous interprétez ce morceau, puisque le spectacle s'appelle Pour le plaisir,
oui.
Où est-ce que vous vous faites particulièrement plaisir dans cette interprétation? Parce que vous captivez tout de suite l'auditoire. Vous êtes comédien de formation,
oui,
et quand vous avez commencé la répétition, c'était visible. Vraiment, tout le monde a été tout de suite capté.
Ah bon?
Oui, merci. C'est vrai. Moi, en tout cas,
je ne m'en rendais pas compte. Moi, j'étais pourtant bien concentrée sur les notes parce que c'est un vrai gros travail.
Avec une lecture comme ça immédiate.
Le plaisir, il est à beaucoup d'endroits. Il est d'abord dans le fait de créer une chanson originale de Pierre-Philippe. Moi, ça a été le premier cadeau que m'a fait Christophe Mirambeau en me proposant de participer à cette aventure. Chanter au Châtelet, c'est un rêve. Chanter avec un orchestre si magnifique, si complet, c'est un rêve.
Est-ce que c'est fréquent pour vous? C'est la première fois de chanter avec un orchestre comme ça,
de cette importance,
avec 80 musiciens.
Au mieux, j'avais joué avec un big band, un big band de peut-être 20 musiciens. C'est déjà du bruit, mais c'est incomparable. Enfin, c'est merveilleux. De la musique.
Ouais. Vous n'avez pas l'impression ni peur de disparaître? Votre voix avec toute cette musique.
Mais pas plus que le second violon n'a peur de disparaître, parce que s'il disparaît, ça n'est pas la même musique qui est jouée. Et même s'il n'est pas dans le faisceau de lumière, il est indispensable.
Alors,
moi, je suis indispensable comme un instrumentiste, au même titre que n'importe lequel d'entre eux.
Et est-ce que vous trouvez que la composition, justement, de Cyril Lenne vous accompagne? C'est-à-dire. Porte aussi parce qu'il a dû écrire, je lui poserai la question, pour un chanteur, et un orchestre.
Il ne me connaissait pas.
Il
n'a pas écrit spécifiquement
pour
moi.
Non, pas forcément vous, mais il a écrit en fonction de ça. C'est
bien
assez
sûr
intéressant d'avoir, vous, votre impression de votre côté. Pour une...
Vous entendez en fond sonore la répétition
du
Suicidaire indécis qui a été composée en 2008 par Cyril Lenne sur un poème de Pierre-Philippe qui est une première absolue avec une orchestration de Michel Bosque jouée, bien entendu, par l'orchestre du Pas de Loup et interprétée par Denis D'Arcangelo.
La formation est classique et qu'on est plus près d'une forme... concert musical à l'ancienne que d'une forme récitale.
Ouais. On n'est pas non plus dans la comédie musicale, on est dans quelque chose d'assez unique.
Quelque chose d'exceptionnel, finalement, c'est vrai.
Unique.
C'est vrai, parce qu'entendre du Mistinguette, comme je l'ai fait, c'était le cas tout à l'heure, entendre du Mistinguette au Châtelet, ça nous ramène à des années, pour moi, glorieuses, dans ma mémoire d'amoureux du musical.
D'où vous est venu l'amour du musical, Denis D'Arcangelo?
J'ignore d'où m'est venue cette passion, mais c'en est une depuis très longtemps. Parce que c'est un monde, c'est pas seulement un répertoire, ce sont aussi des vies, ce sont des tragédies, des destins extraordinaires. C'est l'apparition des premières vedettes qui est extrêmement fascinant. Puis c'est aussi non seulement les origines du monde du musical d'aujourd'hui, mais les origines d'un musical international. Broadway doit beaucoup à ce qu'a été l'opérette en France et le musical français. C'est se dire que de cette époque bénie du début du XXe siècle est né un musical international.
Comme ça, tout de suite, le succès aidant,
c'est un esprit...
International.
Oui. Ouais.
C'est l'humour, la légèreté, avec une écriture en fait qui est quand même très difficile, qui
d'abord,
est très élaborée.
Absolument, et ce sont de vrais auteurs, de vrais compositeurs intelligents qui respectent leur public en écrivant des choses intelligentes et travaillées au service parfois d'idées légères. Oui. Mmh. C'est ce qui est merveilleux, c'est de voir comme un Maurice Yvain a composé, on l'entendait tout à l'heure aussi en répétition orchestrale, a composé de légèreté, mais à quel point c'est intelligent, à quel point c'est fin.
C'est sophistiqué.
Sophistiqué, bien sûr. Et c'est au service de chanteuses, oui, comme Mistinguette, qui, entre autres, qui chantent des bêtises.
Alors, le Suicidaire indécis, je vais essayer d'interviewer Pierre-Philippe, quand même, parce que comme c'est lui qui l'a écrit. Dans le moment des répétitions, j'entendais beaucoup la harpe. J'étais pas très loin, mais vraiment, on l'entendait beaucoup, beaucoup. Et j'étais impressionnée justement du contraste entre le texte, la musique, votre voix, les paroles, le sens des paroles.
Mais la harpe, à mon avis, elle renforce le lyrique. Elle va dans le sens du lyrique. Et cette chanson est lyrique finalement, elle est un petit peu une blague, un petit peu une tragédie, mais les deux juxtaposés en font quelque chose d'assez lyrique, cet état d'âme qui ne dit pas s'il veut rire ou pleurer, cet homme qui prend la parole pour on ne sait quelle raison, juste pour dire peut-être ça va pas bien, mais ça va pas si mal dans le fond. Eh bien, on est presque dans un absurde de propos. Et je trouve que cette harpe qui vient là et ce propos lyrique, ça pourrait être... j'imagine qu'à une époque, ça aurait pu être composé par un Ravel. Mm-hmm. Une musique comme appropriée, comme elle l'est là. Voilà, quelque chose finalement d'aérien, d'éthéré. C'est tout à fait au service de ce propos qui lui-même est éthéré.
Des suicidaires indécis.
Indécis. On va mourir maintenant, quand peut-être.
Vous pourriez nous chantonner un petit quelque chose, des suicidaires indécis.
Oui. Mon chagrin au vin sans arrêt, je l'ai noyé, mais il paraît que ce n'est pas ce qui l'assassine. J'ai bien pensé me foutre à l'eau, mais le jardinier, ce salaud, avait vidangé la piscine. Et voilà, chaque couplet est une mauvaise surprise.
Un petit aperçu de l'esprit de ce texte et aussi de la mélodie, enfin de ce qui l'accompagne. Denis d'Arcangelo, vous avez été aussi moliérisé pour, enfin pas vous, mais le spectacle auquel vous avez participé,
ça, c'était
pour
une belle
cabaret
émotion.
Des hommes perdus. Donc vous êtes venu aussi au chant. Par l'intermédiaire de votre passion pour le musical, par des rencontres.
Ma formation, si on peut parler de formation, elle s'est faite vraiment sur le tard. Sur le tard.
Ouais.
J'ai appris le métier en jouant dans des petits cabarets et en jouant dans la rue. Et donc, j'ai un peu appris à tout faire en même temps, jouer, chanter, danser, faire de la musique.
Vous vous définissez comme un comédien, m'avez-vous dit tout à l'heure.
J'aime bien dire artiste
de variété.
Parce que finalement, dans la variété, il y a varié et ça me donne autant de plaisir. Ça me donne autant de plaisir de jouer du Molière que de chanter des chansons légères, que de chanter du Mistinguette, si jamais c'était le cas. Ce ne sont pas les opposés l'un de l'autre, mais tout ça, c'est à la variété. Bon, voilà, ça me plaît énormément de faire un peu de tout. Et d'être employé dans des cadres les plus différents possibles.
Alors là, ça va être un très beau spectacle au Théâtre du Châtelet. C'est belle scène. Ça doit être magique pour.
Probablement
pour
impressionnant.
Vous,
on n'est pas allé sur le plateau encore.
Mais... Voilà. La générale, c'est après-demain. écoutez, je vous remercie beaucoup.
Avec grand plaisir.
Et puis, bonne continuation dans votre parcours. Et puis, que le 12 avril soit une grande fête à 16h au Théâtre du Châtelet.
Nous y serons.
Écoutons un extrait des Cinq de cœur dans leur interprétation du Chèque composé en 1921 par Ted Snyder et leur enchaînement sur le morceau de George Van Paris, il y a toujours un passage à niveau. Vous venez donc d'entendre une série d'interviews des compositeurs, du chef d'orchestre, de la présidente de l'orchestre du Pas de Loup et de quelques-uns des interprètes qui ont participé au concert balade du 12 avril 2008 du Théâtre du Châtelet qui s'intitulait « Le plaisir pour le plaisir, conception et direction artistique Christophe Mirambeau ». Retrouvez prochainement dans notre médiathèque l'intégralité de ces interviews et d'autres à venir. En médiathèque, concert, balade, le plaisir pour le plaisir de Christophe Mirambeau, en répétition au Théâtre du Châtelet, numéro 2.